Et oui, aime l'été. Alors, mercredi, effectivement, milieu de semaine. Bonjour, Nathalie.
Salut, comment tu vas?
Mais très, très bien. Ah. Écoute, ça t'arrive d'aller parfois au resto, de te déposer.
Ouais.
Oui. Et puis là, tu es allée l'autre jour dans un resto et tu as fait une rencontre assez particulière. Et ben, ce sont nos deux invités que nous allons accueillir. Et puis, tu vas nous les présenter, en quelque sorte.
Ce qui est sympathique, c'est que j'arrive au resto, il y a une table, on dirait qu'elle était là juste pour moi. Puis à côté, il y a deux gentilles dames dynamiques qui parle de radio, parle de non-voyance, malvoyance. Puis là, à un moment donné...
Et parle de Canal M.
Et parle de Canal M. Ben, en fait, parle de radio. Ben après ça, Canal M, Et puis après ça, écoute, je suis trop curieuse. je suis allée leur parler, puis je me suis jointe à elle pendant un certain temps. Puis on a jasé. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, venez nous en parler de ce que vous vivez. Parce que Anne, qui était l'enseignante de Bianca, sont demeurées amies. Donc, elle était enseignante, professeure en...
C'est-à-dire que Anne était professeure agrégée à la retraite de l'Université de Montréal.
Exactement.
Donc, spécialisée en réadaptation, réadaptation oculaire, visuelle, c'est ça. Et puis, Bianca...
C'était l'élève.
Alors, elle fait la même chose aujourd'hui. Alors, c'est merveilleux. Et les deux ont quand même, à leur façon, une déficience visuelle. Alors, on va en parler, bien sûr, de chacune à ses particularités. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, on va commencer peut-être par Anne, la doyenne.
La doyenne. Commençons par la doyenne.
Anne, alors, c'est ça. Donc, vous étiez professeure et votre handicap visuel, c'est de naissance, Est-ce que c'est vous qui...
Non, non.
C'est pas vous, ça.
Non, moi, ce n'est pas de naissance. Ma chère amie Bianca, c'est de naissance.
Ah, d'accord. Oui. Bon.
Moi, c'est suite à des complications liées au diabète juvénile que j'ai depuis l'âge de 8 ans et à l'âge de 24 ans, des problèmes graves de santé et de vision se sont manifestés et je me suis retrouvée avec une déficience visuelle sévère à l'âge de 24 ans.
Parce que c'est une des conséquences du diabète, Il y a bon nombre de conséquences au diabète, mais les problèmes de vision, ça vient avec.
Les problèmes de vision sont dus, je peux peut-être expliquer brièvement.
Allez-y, on vous écoute, on a la demi-heure pour en parler.
D'accord. brièvement, le diabète, c'est que notre corps ne produit plus d'insuline. À quoi sert l'insuline? L'insuline permet de régulariser le taux de sucre dans le sang. Mm-hmm. Si vous mangez beaucoup, votre taux de sucre va naturellement monter un peu, mais très rapidement, votre corps va s'ajuster, va vous donner de l'insuline et votre taux de sucre va rester normal. Une personne comme moi doit s'injecter de l'insuline parce que mon corps n'en produit plus.
D'accord.
Le fait de ne pas avoir un taux de sucre normal crée à la longue des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. Le système cardiovasculaire devient plus fragile avec le temps. Et les premiers organes qui sont affectés, ce sont ceux qui ont les plus petits capillaires sanguins. Et les plus petits capillaires sanguins se retrouvent au niveau des yeux, des pieds, des mains et des reins. Donc, souvent, on va voir des personnes diabétiques qui ont des difficultés ou des premières problématiques au niveau des petits capillaires sanguins. Et ça a été mon cas où ça s'est beaucoup, beaucoup logé au niveau des yeux dès l'âge de 23 ans. Beaucoup d'opérations pour tenter d'enrayer le problème. Aujourd'hui, en 2024, on voit presque plus de personnes qui deviennent aveugles comme moi j'ai eu à faire face à l'âge de 24 ans. Les progrès en ophtalmologie, les progrès au niveau des traitements du diabète ont beaucoup évolué. Malgré ceci, la cause numéro un chez les adultes entre 18 et 65 ans de cécité au Canada reste le diabète. Alors qu'avant, c'était la cause numéro un dans le monde. Maintenant, c'est plus chez les adultes. Et donc, de devenir complètement aveugle, ça peut encore arriver, mais c'est plus rare. Et je pense que ces statistiques vont changer avec le temps. On voit de moins en moins quand même de personnes adulte avec des cécités, comme c'est mon cas.
Et la prévention, forcément, ça joue pour beaucoup.
Anne, vous êtes complètement aveugle, vous ne voyez rien du tout?
Non.
Il y a pas... okay.
Je vois encore un peu. Mm-hmm. J'ai perdu l'œil gauche complètement et l'œil droit, malheureusement, il faiblit beaucoup depuis 3-4 ans. Et j'ai encore un tout petit peu de contraste et de possibilité lorsque la lumière est adéquate de voir des objets et des éléments contrastants autour de
moi. Parce qu'il y a beaucoup d'outils maintenant aussi. Vous êtes assez outillés à tous les niveaux là, pour améliorer cette capacité, enfin, le peu que vous voyez. Justement, vous parlez de contraste. La lumière compte aussi, c'est assez important. Étonnamment, les couleurs aussi, sans les distinguer toujours, là, parce que vous voyez parfois, il y a une vision en noir et blanc, mais les couleurs quand même contribuent peut-être à accentuer les contrastes, je pense.
Chantal, vous êtes curieuse, comme la plupart des gens veulent comprendre qu'est-ce qu'on voit.
Ouais, mais c'est ça, oui.
Et ce que j'ai expliqué à Nathalie l'autre fois et que je réexplique, c'est que l'œil normal comprend 126 millions de cellules nerveuses pour nous permettre de voir. De ces 126 millions de cellules, il y en a 6 millions qui sont au centre et qui nous permettent d'avoir une acuité, une perception des détails qui est fine et qui permet de reconnaître les gens, bien reconnaître toutes les couleurs, reconnaître des images et tout ça. Les autres 120 millions, c'est pour reconnaître toute la périphérie de notre vision, tout ce qu'on voit en général.
D'accord.
Et donc, en fonction de quelle pathologie oculaire la personne a vécu, quelle partie de l'œil est atteinte, on va perdre une partie, en tout ou en partie, de ces cellules au centre ou des cellules en périphérie. Dans mon cas, j'ai à peu près tout perdu au centre, je dirais tout, et il m'en reste un tout petit peu en périphérie. Donc, sur les 126 millions, pendant de nombreuses années, j'en ai peut-être eu 120 millions manquantes puis un 6 millions qui fonctionne encore. Mais aujourd'hui, je vous dirais, il m'en reste peut-être 500 000, je ne sais pas.
Ouais.
Et elle fonctionne lorsqu'il y a un éclairage très fort pour stimuler puis allumer les neurones qui restent pour leur donner un rôle. Mais dès que ça devient plus sombre, pouf, tout s'éteint puis je me retrouve dans le noir.
Anne, j'aimerais aborder avec vous le sujet. Vous avez reçu votre diagnostic de diabète de type 1 à quel âge?
À l'âge de 8 ans.
De 8 ans. Et vous avez perdu la vision, vous dites, à l'âge de 23 ans. Votre qualité 24, de vie, oui. Votre qualité de vie depuis le diagnostic, comment vous la vivez, votre vie au quotidien? C'est ce que je me pose. Quand vous étiez jeune et maintenant?
Mais je vous dirais, lorsqu'on a un diabète de type 1 et qu'on est jeune, il peut arriver... Moi, je dis que ce n'est pas une maladie pour les adolescentes ou les adolescents.
Mm-hmm.
Je n'ai pas été en mesure de bien contrôler mon diabète à une certaine époque. Et donc, l'aide médicale que j'ai eue après avoir perdu la vue, je vous dirais, m'a sauvé la vie. L'aide médicale, les services psychosociaux, les services de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille a été extraordinaire et... La parole ira à Bianca pour ça. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de services après qui m'ont permis de faire face à moi-même, ce que je ne faisais pas à l'adolescence, que malheureusement, encore, souvent, oui. On ne fait pas. Et j'ai payé très cher, je dirais, mes erreurs d'adolescente. Mais je suis mieux dans ma peau. Alors, des fois, les gens perçoivent que ça doit donc être terrible d'avoir une déficience visuelle. Non, non, c'est bien pire être mal dans sa peau.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites, oui. Tout est relatif, finalement, c'est
tout
ça?
Tout est relatif. Ouais.
Alors, Nathalie, qui est très émue. Oui, oui, effectivement, c'est très beau ce que vous dites. Et puis, ça nous fait réfléchir tous, bien sûr. Alors, parce que, en fait, le véritable handicap, ce sont ce qu'on se met comme limite, au fond.
Absolument.
Ouais.
On a une pression sociale, parfois, qui nous empêche de vraiment comprendre qui on est puis accepter à la fois... Les petits défauts qu'on peut avoir, on n'est pas parfait.
Oui.
Et de ne pas avoir peur de notre imaginaire qui parfois peut faire peur aux autres ou nous faire peur à nous-mêmes,
ouais.
Puis nous amener dans des zones où on se fait du tort.
Anne, les adolescents qui nous écoutent aujourd'hui, vous leur dites quoi?
Je leur dirais, ne vous isolez pas. Moi, je me suis beaucoup isolée. J'étais toute seule comme une huître dans un petit coin pendant des années. À ne pas aimer mon identité. Écoutez, c'est la semaine de la fierté gay. Alors, pour bien expliquer, j'ai un chandail, ça me dit.
C'est vrai, vous êtes arc-en-ciel.
Qui ressemble
vous êtes arc-en-ciel aujourd'hui, c'est
oui,
vrai.
Oui. Moi, j'aimais pas mon identité sexuelle. J'étais en pleine crise d'identité. J'étais pas bien, je l'acceptais pas. J'étais homosexuelle et je ne le voulais pas. J'ai donc fait de graves erreurs avec ma santé. aujourd'hui, je suis très bien dans ma peau et très bien avec moi-même. Voilà. C'est, je dirais, ne faut pas s'isoler, il faut en parler à ceux.
Alors ça, vous l'avez, j'imagine, communiqué à Bianca, qui a été votre élève. Et oui, Bianca Lussier, parlons de vous maintenant. Parlons de, d'abord, vous, c'est de naissance. Là. Oui. Bon, alors c'est vraiment... Alors, comment c'est quand on n'a pas... C'est-à-dire qu'évidemment, dans le cas de Anne, elle a déjà vu, bien sûr, alors... Tandis que quand on n'a pas eu l'occasion de voir depuis la naissance, comment on vit avec ça?
Oui, bien, premièrement, je dois dire que je vois.
C'est ça, vous êtes malvoyante.
Je suis malvoyante.
Hein? Exactement.
Je
vois. C'est pas une
je suis pas non-voyante, c'est ça. Non, j'ai de la vision qui est fonctionnelle, mais qui est loin d'être parfaite puis qui ne peut pas se corriger avec des lunettes. Dans le fond, quand on parle de déficience visuelle, malvoyance, ou, c'est quand, malgré toutes les opérations, malgré toutes les lunettes, la personne a quand même une vision qui est... Qui est pas celle de monsieur, madame, tout le monde. Donc, dans mon cas, moi, c'est une pathologie qui touche la rétine qui s'appelle achromatopsie. Mm-hmm. En fait, c'est les cônes de la rétine qui sont pas formés adéquatement. Donc, ça peut pas... Les lunettes vont plutôt corriger quand l'œil a pas tout à fait la bonne forme, l'image va pas se faire tout à fait comme il faut sur la rétine. Donc là, on prend une paire de lunettes, puis ah, c'est à focus, et là, la personne voit bien. Mais dans mon cas, c'est vraiment la rétine elle-même qui fonctionne pas parfaitement. Donc, l'information, quand c'est envoyé au cerveau, c'est pas parfait. Donc, le résultat de comment je vois, c'est toujours difficile à décrire pour répondre à votre question.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi, c'est de naissance, comme vous le disiez. Donc, j'ai jamais bien vu. Moi, contrairement à Anne, j'ai pas eu un gros deuil de avant et après. Moi, c'est plutôt petit à petit que j'ai appris que je voyais pas bien et les impacts que cela pouvait avoir sur ma vie. Parce que moi, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais enfant que comment les autres voyaient. Ouais. Ça m'a pris du temps à comprendre les impacts de ça. Comme je ne vois pas bien les sourires, si quelqu'un, le non-verbal, si quelqu'un a comme des étoiles dans ses yeux ou des yeux gentils ou des yeux méchants, des choses comme ça, ça va être difficile pour moi de reconnaître les personnes. Je vais écouter la voix, je vais me fier à la forme de la personne, la morphologie, les vêtements. J'ai plein de petits trucs.
Oui, parce que vous développez des habiletés. C'est comme n'importe quel handicap de naissance, au fond. On va pallier à cet handicap-là d'une autre façon. Alors, vous avez développé des trucs, comme vous dites.
Exact. J'ai développé des petits trucs. fait que ça va servir la plupart du temps, mais il arrive toujours des cas où on peut ne pas reconnaître quelqu'un malgré tous les trucs qu'on a utilisés. Mais oui, en général, les trucs vont aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, on a même des trucs sans s'en rendre compte. Ça devient un peu comme une seconde nature. Fait que voilà, fait que moi c'est ça, je peux pas vraiment comparer à Anne, c'est très 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 différent, mais en gros ce qu'on doit retenir de ma vision, c'est que je vois pas bien les couleurs.
C'est ça, toi c'est les couleurs.
Les couleurs, je vois les couleurs très vives, comme là je vois qu'on est en onde, on a un voyant rouge qui nous l'indique, parce que c'est très 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 rouge, mais c'est la seule couleur que je peux vous dire ici dont je suis certaine. Le beau chandail de Anne, de la fierté, il est très voyant, donc je peux voir les couleurs, mais comme Nathalie, je vois que sur votre chandail il y a des couleurs, mais je peux pas, tu sais, des motifs, mais je peux pas dire c'est quoi. Fait que, puis je vais voir mieux quand les personnes sont prêtes. Sinon, sinon, j'ai pas de détails, en fait.
Ouais.
Puis le dernier symptôme important, c'est la lumière qui va beaucoup, beaucoup me déranger.
Mm-hmm.
Pour moi, comme pour beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle, la lumière, c'est notre meilleur ami ou notre meilleur ennemi selon la situation. Là.
Ah, fait
que... Parce que quand on était au restaurant, je me suis penchée pour jaser avec elle. Et puis, Bianca, tu m'as dit, je me suis placée exactement ici parce que si je te voyais dans la lumière, je verrais rien du tout.
C'est ça.
Alors, toi, tu es placée au restaurant précisément parce qu'on était sur le bord de la fenêtre.
Ouais.
Puis la lumière dehors faisait beau, tout ça. Donc, tu t'étais placé précisément pour bien voir ce que tu pouvais, du moins.
C'est ça, le mieux possible de ce que je peux voir. Ouais.
Exactement.
L'idée, en fait, c'est que la lumière va faire comme une photo à contre-jour. C'est souvent comme ça que je vais l'exprimer, une photo à contre-jour où on voit le soleil face à la personne qui prend la photo. S'il y a quelqu'un entre la personne et le soleil, la personne va être comme noire un peu. Il n'y aura pas de « bon, mais moi, ça me fait ça dans la vie réelle, pas juste sur les photos. » Donc, je vais avoir tendance à mettre la lumière sur un des côtés ou derrière moi, mais pas devant moi. Fait que la lumière doit éclairer ce que je regarde et non être dans mes yeux. C'est ma façon de m'adapter.
Donc, tous les outils dont vous disposez, est-ce que, bon, il y a des outils qui vous aident grandement? J'imagine, par exemple, vous pouvez soit aller sur l'ordinateur, il y a plein de choses que vous pouvez faire quand même avec les nouveaux outils qui sont à la fine pointe, là.
Je dirais, en général, quand on a une déficience visuelle, à peu près tout est possible, mais avec plus d'efforts. Je sais pas, Anne, si tu vois ça.
Tout à fait d'accord.
Donc oui, c'est possible d'aller sur Internet, c'est possible. Je veux dire, on est dans la société en 2024, là. On n'est pas dans un monde qui n'est pas numérique. Au contraire, même moi, je dis souvent qu'avoir une déficience visuelle aujourd'hui, c'est probablement beaucoup plus... comment dire, peut-être pas facile, mais on peut beaucoup plus s'intégrer probablement dans la société, avoir un travail, etc., qu'en 1920, de par la technologie et tout ça. Donc oui, puis moi, c'est mon travail dans la vie d'enseigner beaucoup les technologies adaptées. Donc oui, tout ça est possible.
Vous enseignez donc à l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est
Oui, bien en fait, je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Donc oui, dans mes tâches, je vais enseigner, mais c'est surtout que je vais rencontrer, on les appelle les usagers chez nous, donc les personnes qui ont une déficience visuelle. Puis je vais leur regarder avec eux, mettons, la personne vient d'avoir son diagnostic. Elle vient de perdre la vision, puis là, il y a plein de choses qu'elle n'est plus en mesure de faire. Donc, on va faire un tour avec la personne. Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut reprendre comme activité? Puis là, bien, on se fait un plan de match. OK, on pourrait faire telle chose. Par exemple, vos textos, bien, on pourrait utiliser une revue d'écran pour pouvoir les lire de façon sonore. On pourrait les dicter. Puis on va choisir les moyens, bien, selon le profil de la personne.
Alors donc, et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, bon, la communication. Dans le cas, bon, Anne, comment on s'adresse? Quel piège éviter? Quand on rencontre quelqu'un comme vous, qu'est-ce qui est peut-être la bonne façon de faire? Enfin, à quoi il faut penser? Parce qu'évidemment, on oublie trop facilement parce que, d'abord, vous êtes très éloquente, vous avez été prof d'université, vous êtes un professeur d'université. C'est sûr qu'à ce moment-là, bon, des fois, on oublie finalement que vous êtes, non-voyante. Et puis, comment on doit communiquer de préférence avec quelqu'un qui a ces problèmes?
C'est une question très philosophique, ça.
Oui.
le plus naturellement possible, je dirais. Puis d'oser dire que si c'est la première fois qu'on est en contact avec une personne, de pouvoir dire, écoutez, je ne suis pas certaine quoi faire. Alors, le mieux, c'est de dire, comment je peux t'aider? Et ça dépend beaucoup du contexte. Qu'on soit assis ici ensemble aujourd'hui et que j'ai besoin d'un verre d'eau ou que j'ai besoin de traverser la rue avec une personne qui est incognito, que je ne verrai plus après avoir traversé la rue, ça peut être un peu différent l'approche qu'on va prendre. Ce qui est pareil pour tout le monde, c'est... Comment je peux t'aider? Ou est-ce que je peux faire quelque chose? Et le demander et d'entendre la réponse. Parce que malheureusement, des fois, les gens en font trop, ils veulent en faire plus. Ils vont faire sans savoir que la personne, elle n'a peut-être pas besoin d'aide, elle a juste besoin d'un petit peu plus de temps pour toucher ce qu'il y a autour d'elle. Et puis, il y a des techniques qu'on enseigne sur comment offrir le bras à une personne pour que cette personne puisse prendre le coude et se laisser guider par la personne qui guide avec un pas à l'avant. Comme ça, moi, si je tiens votre bras, Chantal, si vous descendez une marche, je vais sentir votre bras descendre. Si vous montez une marche d'escalier, je vais sentir que votre corps monte ou descend. Donc, cette technique de dire « laissez la personne prendre votre bras si elle en a besoin », c'est ce qu'on montre. Mais pour que ce soit simple là, pour vos auditeurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Parce
que
j'imagine que dans la rue, ça doit vous arriver quand arrive le moment de traverser la rue. Est-ce que des gens qui le font par gentillesse, mais qui ne vous le demandent pas, qui vous prennent par le bras puis qui vous...
Je vous dirais moins qu'il y a 30 ans. Je sais pas toi, Bianca, si tu as eu des expériences comme ça, mais moi, j'ai eu dans le passé des gens qui me prennent le bras puis qui me poussent.
Eh.
On ne veut pas ça.
Non, ben non.
Mais
surtout pas, oui.
Mais on découvre, en perdant la vue plus tard, on découvre les gens autrement. On découvre le malaise que les gens ont. Ça, c'est viscéral, on n'a pas besoin de voir pour le comprendre. Il y a un malaise, il y a une inquiétude. Il y a des gens qui disent, oh, madame, je préférerais mourir que d'être dans votre situation.
Eh, mon...
Toutes sortes d'histoires. ou d'autres histoires qui disent, vous êtes tellement extraordinaire et courageuse. Puis là, tu dis, écoutez, vous ne me connaissez pas. On peut peut-être se garder une petite gêne. Alors, non, c'est très particulier comment les gens s'adressent à nous parce que c'est visible qu'on a une canne blanche et qu'on se déplace dans un environnement qui, pour la plupart des gens, ça fait peur. Mais, en fait, tout ça pour dire que d'aborder une personne aveugle ou malvoyante, c'est vraiment de lui demander « est-ce que je peux vous aider? » Puis, selon le contexte, en parler pour briser la glace.
Ouais. Évidemment, dans votre travail, Bianca aussi, vous jouez un petit peu un rôle de psychologue en même temps, j'imagine.
Bien, psychologue, c'est beaucoup dire, parce que dans l'équipe, c'est vraiment une profession. Puis, tu sais, quand les gens ont beaucoup de souffrance, il y a vraiment des façons de creuser dans la souffrance. Moi, mon travail, puis de la régler, pas juste creuser dedans. Mais moi, mon travail, je vais avoir une bonne oreille, je vais avoir une oreille attentive. Mais non, je dirais pas psychologue. Je dirais avoir une bonne écoute, avoir de l'empathie. Mais mon travail, ça va être beaucoup plus dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne soit en mesure de faire les choses qui lui tiennent à cœur? Donc, je vais vraiment... c'est plutôt comme de l'enseignement, mais en tenant compte de la personne, de ses forces, de ses limites, de tout ce qu'on veut, de qui elle est. Fait que je dirais plutôt d'avoir une oreille attentive, de prendre le temps, tu sais, de laisser un espace pour que la personne, elle se sente confortable, qu'elle se sente bien, qu'elle puisse l'exprimer s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Oui, mais quand la personne a vraiment des enjeux à travailler, bien, j'ai des personnes dans notre équipe vers qui je peux faire une référence où là, on va vraiment aborder un peu plus les enjeux psychosociaux.
Ouais. Au niveau de l'intelligence artificielle, là, bon, est-ce que vous en parlez de plus en plus là, de ce qui peut, enfin, des avancées?
Ah, ça, c'est un regret de Marie. Moi, j'ai tellement hâte de voir quelle va être ma profession dans 10, 15 ans. L'intelligence artificielle, ça soulève beaucoup de possibilités, puis en même temps, beaucoup de questionnements. Ce que je pourrais vous dire, il y a plusieurs applications qui sortent, puis des fois, c'est presque difficile de garder le fil parce qu'à chaque semaine, à chaque deux semaines, il y a des nouvelles choses. Un exemple que je trouve intéressant dans ma pratique avec les usagers, c'est par exemple quelqu'un qui a une vision très, très basse, qui doit apprendre à aller sur Internet. Les personnes qui ont une vision très, très basse, ils vont devoir tout faire... Comment je vous dirais, si on pense à l'ordinateur, par exemple, c'est sans la souris. Fait quand on met de côté la souris puis qu'on met de côté l'écran, bien, les personnes vont devoir apprendre des raccourcis clavier. Par exemple, on veut fermer une fenêtre. Au lieu d'appuyer sur le X, on fait Alt F4. Ça, c'est un exemple. Mais tout est comme ça. Imaginez chaque tâche, puis on va mettre de la synthèse vocale, tout ça. Bien, les applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT vont permettre de plutôt que d'apprendre à faire la recherche sur Google où il y a beaucoup, beaucoup de codes nécessaires. La personne, par exemple, pourrait prendre un téléphone puis converser avec l'application ChatGPT. Ça demande un peu moins de connaissances. En même temps, ça ne répond pas à tous les besoins. Ce n'est pas la solution miracle.
Exact,
c'est ça.
Ouais.
Mais pour quelqu'un qui vient de perdre la vision puis qui a zéro, qui n'a plus de repères, ça peut être une façon un peu moins...
De se réapproprier son autonomie.
Oui, c'est ça. Il y a des applications aussi qui vont permettre de numériser du texte, de le faire lire, de reconnaître des codes barres. Mais fait que ça offre beaucoup de possibilités. En même temps, il y a quand même des enjeux parce que quand on fait numériser un document, ChatGPT, tout ça, ben c'est, après, on a un peu une perte de contrôle des données qu'on avait dans notre document. Donc, vous voyez, ça, c'est un questionnement qu'on a beaucoup.
Tout ça, c'est à réfléchir.
Oui.
Je sais que tu adores ton métier, mais quand je t'ai entendu parler, tu parlais de radio.
Oui.
Un médium que tu aimes beaucoup.
Oui.
Je me dis, tu serais une bonne ambassadrice et tu pourrais vraiment aider beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages éventuellement comme sideline, comme emploi?
Ben d'ailleurs, les deux, vous pourriez animer des balados parce que vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Et c'est très intéressant, ben oui, parce qu'on pourrait aller vraiment vers quelque chose de très personnel, notamment avec Anne. C'est vraiment passionnant de vous entendre. Ouais.
Bianca et moi, on est deux passionnés, en fait.
Parle de quoi, on est toujours passionnés.
Ben, c'est pour ça que vous êtes deux amis. C'est pour ça que j'ai remarqué à la table, je me disais, mon Dieu, ces deux filles-là sont tellement passionnées. C'était beau de vous entendre. Et je me dis, vous nous avez... En fait, quand j'étais avec vous, vous m'avez fait comprendre ce que vous vivez. C'était une belle conversation, puis je vous ai trouvée très accueillante.
Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à la question.
Bien sûr, on a quelques minutes encore.
La question sur l'intelligence artificielle, et comme moi, le diabète de type 1, c'est ma survie qui en dépend.
Ouais.
On a de plus en plus d'intelligence artificielle pour traiter le diabète de type 1. Alors, moi, je suis branchée avec un petit appareil qui parle à mon téléphone et qui me dit si mon sucre est trop haut, trop bas, et est-ce que je vais être en hypoglycémie ou en hyperglycémie bientôt. Mais comme je suis aveugle, j'ai à peu près pas accès à un appareil qu'on appelle une pompe à insuline, qui est un autre appareil qu'on met sur le corps et qui permet aux deux appareils de se parler pour dire « Hey, si le sucre est en train de monter, est-ce que la pompe devrait envoyer un peu d'insuline? Oui, c'est le temps d'en envoyer. » Ou « Non, il ne faut pas en envoyer parce que les deux se parlent. » Ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et malheureusement, les personnes aveugles attendent encore que Santé Canada approuve le dernier modèle qui est passé aux États-Unis et en France, mais qui n'est pas encore disponible au Canada, pour qu'une personne aveugle puisse aussi utiliser une pompe à insuline. J'attends ça avec impatience.
Parce que je fais juste dire aussi que vous m'aviez appris, Anne, que de plus en plus les gens diabétiques... En fait, le diabète est maintenant considéré comme un handicap.
Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que...
Donc, vous avez de l'aide du gouvernement sur certaines choses.
Oui, c'est parce que dans la théorie, là, c'est toujours le prof qui revient dans tout ça, c'est qu'on parle de situation de handicap. Et lorsqu'une personne est dans une incapacité de produire, de faire une activité et que c'est dû à l'environnement, à des problèmes environnementaux, la personne va être en situation de handicap. Et si l'environnement est adapté et modifié, elle va être en mesure de faire ses activités. Diabète crée beaucoup de situations de handicap. Beaucoup, beaucoup.
Alors, ce fut intéressant de vous rencontrer, mesdames. Et puis, j'espère qu'on va vous revoir dans d'autres circonstances. Et pourquoi pas à la radio, effectivement. Ouais. Pourquoi pas des balados, on vous lance l'idée. Et puis, Bianca Lucier et Anne Jarry. Alors, peut-être une nouvelle carrière pour vous deux.
Je vous le souhaite.
Alors, merci bien d'être venue nous parler.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
C'était fort intéressant. Merci beaucoup.